du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères, mes bien chers amis. Nous fêtons aujourd'hui le dimanche des missions. L'Église demande pour cette raison de rajouter la magnifique oraison pour les missions, afin de demander au bon Dieu d'envoyer des ouvriers à ces missions pour que tous puissent atteindre à la connaissance de la vérité, me dit la messe de la propagation de la foi. N'oubliez pas que c'est le signe de la vie d'une église. Une église survit dans la mesure où elle a l'esprit missionnaire. Une église meurt dans la mesure précise où elle perd cet esprit missionnaire. S'il y a un esprit qui doit être le nôtre, d'autres, c'est précisément l'esprit de prosélytisme. C'est un mot horrible dans le monde moderne. Dès qu'on prononce ce mot, les gens attrapent des boutons sur le bord du nez dans les 5 secondes qui suivent. Ils ne peuvent plus supporter ce mot. Imaginez quelqu'un qui est un médecin, alors qu'il y a une épidémie épouvantable dans tout le pays qui ravage, qui décime les populations. Imaginez un médecin qui a découvert une médecine spéciale, un médicament spécial pour enrayer ce virus qui détruit bien les corps, et qui se contente de garder ce médicament pour sa propre famille. Son épouse, ses enfants, il dit, voilà, je les protège, eux. Et qui refuse de donner cette médecine, ce médicament, pour que tout le monde puisse être sauvé. Les personnes de ce genre, eh bien, chers frères, seraient tout simplement un assassin. Eh bien, c'est la même chose, et encore plus, de façon plus réelle pour les âmes. Le but de la vie, c'est de sauver notre âme. On ne peut pas sauver notre âme, sauf dans l'Église catholique. Il ne peut pas y avoir de salut en dehors de l'Église catholique, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, c'est absolument évident. Puisque nous savons de façon certaine, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous l'a dit, puisque nous savons de façon certaine que le salut ne peut exister en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, en dehors du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ne devons-nous pas justement avoir cet esprit missionnaire pour que, d'une part, le bon Dieu amène des ouvriers dans sa mission, mais aussi pour que plus d'âmes soient touchées par la grâce du bon Dieu, afin que ces âmes puissent se sauver. Et je crois une chose extrêmement, extrêmement importante à comprendre aujourd'hui. Encore une fois, quand l'Église cesse d'être missionnaire, cette Église est en train de mourir. Et on le voit très bien dans l'Église de Vatican II, à quel point justement l'Église de Vatican II a totalement perdu l'Église, le sens missionnaire, le sens du véritable prosélytisme, amener les grâces du bon Dieu à d'autres personnes pour que le maximum d'âmes puissent se sauver. Oui, mais bien, chers frères, il faut bien avouer une chose, c'est que ce prosélytisme se perd, le véritable prosélytisme se perd, l'esprit missionnaire se perd. Prenez le cas, par exemple, des catholiques qui sont des catholiques de tradition depuis de longues années. Vous êtes dans la tradition depuis de longues années. Combien de personnes avez-vous envoyées, par exemple, aux retraites? Combien de personnes avez-vous envoyées à la messe le dimanche ici pour que, justement, plus d'âmes puissent être sauvées? C'est quand même triste de voir, c'est à la fois une grande joie, mais à la fois une grande tristesse, de voir que des gens qui n'ont pas reçu la foi catholique dans leur enfance, de voir des gens qui n'ont pas été élevés dans la foi catholique, dans une atmosphère catholique, qui arrivent ici pour les retraites sans le baptême, sans l'instruction religieuse catholique, parce qu'ils n'ont jamais rien reçu en famille, et qui, une fois baptisés, ont plus de zèle pour amener d'autres âmes à notre Seigneur Jésus-Christ que des gens qui ont la chance d'avoir le baptême depuis la naissance. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et quand j'ai des nouveaux catholiques qui viennent d'être baptisés aux retraites, ils ont 30, 35 ans, et ils me disent, monsieur l'abbé, j'ai 35 ans à rattraper. Et donc, je vais mettre maintenant les bouchées doubles pour pouvoir rattraper justement toutes ces années que j'ai perdues en grandissant en dehors de l'Église catholique. Alors, comment avoir, mes bien chers frères, cet esprit missionnaire, cet esprit de prosélytisme? Cet esprit prosélytique, justement, nous l'aurons d'abord en augmentant en nous la foi. En étant convaincu que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu. En étant convaincu que l'Église divine est la seule Église catholique. Et qu'en dehors de cette Église catholique, personne ne peut être sauvé. En étant convaincu que l'état de grâce est la première condition pour être un véritable missionnaire. Un missionnaire qui prétend sauver les âmes en travaillant avec le démon, en restant dans le péché mortel toute la journée, est évidemment un bien piètre missionnaire, quelqu'un qui est incapable de ramener qui que ce soit vers le bon Dieu, parce qu'il n'est même pas capable de se maintenir lui-même en état de grâce. On peut, pour expliquer ceci, utiliser la belle formule de la croisade eucharistique, prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre. Quand je prêche pour les enfants, pour la croisade eucharistique, je respecte toujours cette formule de cette façon. Prie, plus communie, plus sacrifie-toi, égal, sois apôtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir être un apôtre, pour pouvoir être un missionnaire, il faut d'abord prier, il faut communier, il faut se sacrifier. Parce que sans prière, sans l'usage de sacrements, surtout le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, sans avoir l'esprit de pénitence, qui est l'esprit qui nous unit à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, il est évident qu'on ne peut absolument rien faire, on ne peut rien obtenir. On peut expliquer aussi l'esprit missionnaire par cette formule lapidaire que Saint Ignace de Loyola avait donnée à tous ses prédicateurs. Il l'avait imposé à tous les prédicateurs déjà de son temps. Il commençait à prêcher des exercices qui portent son nom. Saint Ignace de Loyola disait à tous les prédicateurs qu'il fallait toujours, toujours terminer les retraites par ce qu'il appelait les trois derniers mots. Persévérez, revenez, recrutez. Et bien sûr, ici, à chaque fois que nous prêchons une retraite ici, nous finissons la retraite en obéissance à Saint Ignace par ces trois derniers mots. Persévérez d'abord, c'est-à-dire garder les résolutions pour rester en état de grâce. Ensuite, revenir, parce que nous savons très bien que même si les retraites sont très puissantes, on a besoin de se battre contre un monde de plus en plus fou, et que donc il faut revenir régulièrement, comme la voiture qui s'arrête régulièrement à la station-service pour faire le plein de carburant. De la même façon, nous avons besoin d'avoir le plein de carburant spirituel afin de tenir le coup dans la vie de tous les jours. Et enfin, si nous persévérons, sinon... Si nous gardons justement, si nous revenons pour garder justement tous les bienfaits que le bon Dieu veut nous donner, à ce moment-là, nous serons capables de recruter. Donc on peut expliquer cette formule de la même façon. Persévérer plus revenez égale recruter. Recruter, ça veut dire quoi? Obtenir les mêmes grâces pour d'autres personnes. Obtenir que plusieurs personnes autour de nous, dans le milieu de vie dans lequel nous vivons, puissent revenir vers le bon Dieu. Encore une fois, mes bien chers frères, ce dogme de foi est un dogme absolument fondamental. Hors de l'Église, personne ne peut être sauvé. Notre Seigneur le dit expressément dans son Évangile. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Pas moi qui ai écrit cette phrase, c'est lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut que tous les hommes viennent à lui et obtiennent par la connaissance de la vérité, par la pratique de la vertu de charité, obtiennent la grâce des grâces, à savoir la grâce de la bonne mort. Il y a donc, si vous voulez, dans l'histoire de l'Église, il y a donc deux sortes de gens. Ceux qui vivent en état de grâce et ceux qui ne vivent pas en état de grâce. Et comme l'état de grâce est une condition sine qua non pour pouvoir se sauver, il est évident que quelqu'un qui ne vit pas en état de grâce ne peut pas prétendre arriver au ciel. Quand j'étudiais au séminaire ce dogme de foi hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Le professeur nous expliquait justement que un des meilleurs moyens d'expliquer ce dogme de foi, c'est précisément de nous rappeler que l'Église est un corps mystique. Et comme tout corps, il y a un âme et un corps qui sont joints. Et qui ont le corps de l'Église et l'âme de l'Église qui doivent travailler ensemble pour monter vers le ciel. Qu'est-ce que c'est que le corps de l'Église? Le corps de l'Église, c'est l'association de tous ceux qui sont baptisés. Est-ce que ça suffit pour aller au ciel? Oui, pour les enfants. Les innocents qui meurent juste après le baptême peuvent aller au ciel par cette voie-là. C'est ce qu'on appelle la voie de l'innocence. Mais dès que nous avons commis le premier péché, la voie de l'innocence est perdue pour nous. Il faut donc à ce moment-là passer par la voie de pénitence. Rappelez-vous la devise de la devise de la croisade eucharistique, prie, sacrifie-toi, prie, communie, sacrifie-toi, avant de devenir un apôtre. Et donc, il va falloir associer au corps de l'Église, qui est la congrégation de tous ceux qui sont baptisés, la congrégation de tous ceux qui sont en état de grâce. Et malheureusement, il y a une distinction entre les deux. Parce que beaucoup de gens sont baptisés, mais ne vivent pas en état de grâce. La condition sine qua non du salut, c'est donc l'état de grâce. Et non pas en soi le baptême. Pourquoi ? Parce que le baptême ne suffit pas à être sauvé. Il faut maintenir l'innocence baptismale par le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, justement pour être dans l'âme de l'Église. Voilà pourquoi le bon Dieu, dans sa miséricorde, pour être certain que même des gens qui ne sont pas baptisés avec un baptême d'eau puissent se sauver quand même, Dieu a voulu instituer ce qu'on appelle le baptême de désir, le baptême de sang. L'Église a toujours enseigné l'existence d'un baptême de désir, d'un baptême de sang. Des milliers de catéchumènes au début de l'histoire de l'Église sont morts sans le baptême. Ils avaient le baptême de sang, ils sont sauvés. Saint Ambroise lui-même a donné un serment fameux pour l'enterrement d'un des empereurs romains qui était en train de préparer au baptême et qui est mort sans le baptême. Il est mort en guerre avant d'être baptisé. Et c'est Saint Ambroise lui-même qui a tenu à faire l'enterrement pour bien expliquer que cet homme avait un désir du baptême. Le désir du baptême, quand il est efficace, est un désir qui correspond à un acte de charité parfaite. L'acte de charité parfaite peut effacer tous les péchés. Donc, mes bien chers frères, n'écoutez pas toutes ces personnes qui prétendent que l'Église catholique n'a jamais enseigné l'existence d'un baptême de sang, d'un baptême de désir. C'est enseigné partout dans l'Église, c'est enseigné par tous les pères de l'Église, c'est enseigné par le Concile de Trente, c'est enseigné par le catéchisme de Saint Pie X. Justement parce que le bon Dieu, en quelque sorte, multiplie pour nous les ouvertures de la porte de l'Église pour que le plus d'âmes possible puissent être sauvées. Bien sûr, il faut comprendre ce baptême de désir avec l'esprit de l'Église. C'est tout à fait impossible pour quelqu'un de se dire « j'ai un baptême de désir, donc je ne cherche pas à avoir le baptême d'eau ». Dans ce cas-là, ce ne serait pas un véritable désir du baptême. Vous voyez, bien chers frères, comme il est important de comprendre impérativement toutes ces choses, c'est en les comprenant qu'on peut arriver justement à éviter bien des problèmes pour nous maintenir en état de grâce. Alors, quels sont les obstacles? Je voudrais vous en parler deux minutes parce que je crois que c'est important. Quels sont les obstacles à cet esprit missionnaire? Je pense que le premier obstacle, c'est l'angélisme. L'angélisme consiste à essayer d'avoir une petite vie un petit peu toute simple, une petite vie à l'eau de rose, une petite foi à l'eau de rose, en disant, bon, je suis la petite voix de l'enfance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, parce que beaucoup de gens en parlent, mais dans la pratique, je refuse de me battre. Un angélisme, c'est un espèce de pacifisme spirituel, une ascétisme spirituelle. Mais c'est un soldat qui a une arme, et qui refuse de s'en sortir, de s'en servir, parce qu'il a peur de blesser l'ennemi. C'est ça l'angélisme. Les gens qui essayent de se sauver, et qui ne veulent pas prendre les moyens pratiques pour le faire. Ils croient qu'en lisant pieusement leur chapelet dans leur chambre, dans leur petit oratoire tous les jours, ça suffit pour être sauvé. Le bon Dieu nous demande bien plus que cela, mes bien chers frères. Il nous demande d'être des soldats. Nous devons être soldats de notre Seigneur Jésus-Christ, pour justement aller à la conquête des âmes. Qu'est-ce qu'il a fait avec les disciples? Qu'est-ce qu'il a fait avec les apôtres? Il les a envoyés au combat. Il les a envoyés à la grande bagarre pour que justement plus d'âmes soient sauvées. Évidemment, ils sont tous ou presque, sauf Saint Jean, ils ont tous dû donner leur vie pour cela. Donc le premier danger, c'est l'angélisme. Le deuxième danger dans cet esprit apostolique, c'est ce qu'on appelle l'activisme. Une tendance de remplacer la prière par l'action. Cet activisme a été condamné de façon très ferme par le pape Léon XIII. Et pour bien marquer ce qu'il voulait dire, il a appelé cet activisme en matière d'esprit missionnaire il a appelé cet activisme l'américanisme. Pourquoi ? Parce que c'est une tendance très nette qui existait parmi les catholiques de l'autre côté de l'Atlantique. Et aujourd'hui, on trouve les mêmes choses ici en France aussi. Les catholiques qui veulent, en quelque sorte, qui se disent, je n'ai pas le temps de prier, je vais remplacer la prière par l'action. Malheur à celui qui agit sans prière. La prière doit être le paratonnerre de l'action. Il faut donc les deux choses. L'action, bien sûr, mais la prière. Et la dernière erreur qu'il nous faut éviter, c'est ce qu'on appelle le volontarisme. C'est un petit peu différent. Le volontarisme, c'est quelqu'un qui se dit, je vais obtenir la conversion de telle personne à la force du poignet. Je vais prier, je vais prier, je vais prier, je vais faire des neuvaines, je vais faire pénitence, et vous allez voir ce que vous allez voir, je vais obtenir la conversion de cette telle personne. Rappelez-vous une chose, mes bien chers frères, vous et moi, on ne convertit personne. C'est le bon Dieu qui convertit. Le bon Dieu va convertir les âmes en utilisant des instruments, tels que vous et moi. C'est autre chose. Donc je crois que ce volontarisme est aussi très important à éviter. Évitons l'angélisme, l'activisme et le volontarisme pour au contraire tout mettre au pied de la croix, se mettre à genoux au pied de la croix, regarder notre Seigneur Jésus-Christ qui a ouvert son sacré cœur sur la croix pour que justement nous puissions, en utilisant ce sang sacré qui découle des plaies de notre Seigneur et du cœur de notre Seigneur, que nous puissions justement nourrir nos âmes pour pouvoir aller nourrir les autres âmes. Donc demandons, mes bien chers frères, avec beaucoup d'humilité, demandons la grâce de conserver cette foi. N'oublions pas que nous ne pouvons pas conserver la foi sans l'aide du bon Dieu. C'est absolument impossible. Alors il faut demander avec beaucoup d'humilité à la très sainte Vierge Marie, elle qui a été et qui est toujours le pont, en quelque sorte, qui unit notre Seigneur Jésus-Christ aux hommes, qui unit les hommes à notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous donne cet esprit missionnaire. Demandons à la très sainte Vierge Marie qu'elle nous donne un désir très très grand pour que nous puissions convertir les âmes autour de nous, à commencer par la nôtre en premier, bien sûr. Donc vivons l'état de grâce tranquillement, mais vivons l'état de grâce en prenant les moyens pour cela. La confession et la communion. Quelqu'un qui vit en état de péché mortel et qui prétend être un missionnaire est un fou, un menteur et un traître devant notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il faut demander, mes bien chers frères. Commençons à la force de la Sainte Vierge Marie pour vivre en état de grâce et étant en état de grâce à ce moment-là, essayer de convertir le maximum d'âmes autour de nous. D'abord par l'exemple. Je suis absolument ébahi de voir parfois le nombre de retraités non catholiques qui viennent et qui sont envoyés par des gens qui sont eux-mêmes déjà catholiques. Qui sont envoyés par des gens, je dirais, qui n'étaient pas catholiques il y a quelque temps. Ils ont compris la force de l'Église catholique, ils ont compris ce que peut leur donner l'Église catholique. Alors à ce moment-là, une fois qu'ils sont convertis, ils n'ont qu'une idée en tête, convertir le plus d'âmes possible. Et je les vois faire des pieds et des mains pour m'envoyer leurs épouses, pour m'envoyer leurs parents, pour m'envoyer leurs enfants, pour m'envoyer des tas d'amis, parce qu'ils veulent, ils ont compris que l'Église catholique est l'unique moyen de salut. Ils ont compris que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu, étant unique vrai Dieu, est l'unique moyen pour nous sauver. Alors ils veulent que le plus d'âmes possible autour d'eux reçoivent ces grâces. Oui, bien chers frères, ce qu'il nous faut demander. Demandons toutes ces grâces de lumière, ces grâces de force, ces grâces de prudence aussi, par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie, pour que justement nous soyons capables d'amener le plus d'âmes possible au bon Dieu. Et n'oublions pas que, évidemment, le plus grand obstacle, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui détruit l'esprit missionnaire. C'est l'orgueil qui détruit le véritable prosélytisme. C'est l'orgueil qui nous fait trop compter sur nous-mêmes et qui ne fait pas voir que nous ne pouvons absolument rien faire sans l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors demandons à très sainte Vierge Marie, la reine de l'humilité, de nous faire comprendre toutes ces choses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.